Chapitre 7. En arrivant au club, Serafino vit une nouvelle fille au vestiaire. Il s'adressa au maître d'hôtel, qui dirigeait l'affaire en son absence. « Qu'est-ce que c'est que cette poule, Lenny ?»«
Lenny.
J'allais vous le dire, Joe. Le gosse de Nelly est encore malade, et j'ai engagé cette fille pour la remplacer, Serafino. Comment s'appelle-t-elle ?»«
Lenny.
Stella. » Joe Serafino la regarda une fois de plus. Serafino. On peut dire qu'elle remplit bien l'uniforme. Quand ce sera un peu calme, envoie-la-moi dans mon bureau.
Lenny.
Pas de blague, Joe. Faites attention. C'est une petite cousine de ma femme.
Serafino.
T'en fais pas, Lenny. Il faut que je prenne son nom, son adresse et son numéro de sécurité sociale, n'est-ce pas? Veux-tu que j'amène le registre du personnel en plein club? Il le quitta pour faire sa tournée habituelle. D'habitude, il circulait parmi les clients, saluait les uns, s'asseyait chez les autres pour appeler ensuite un garçon d'un claquement de doigts. « Paul, renouvelez les consommations ici à mon compte. » Mais le jeudi, soir de sortie des domestiques, l'atmosphère était différente. De nombreuses tables demeuraient vides et les conversations manquaient d'entrain. Même le service n'était plus le même. Les garçons avaient tendance à s'entasser près de la porte de la cuisine au lieu de courir de droite et de gauche avec leurs plateaux. Le jeudi, Joe Serafino passait une grande partie de son temps dans son bureau à travailler à des comptes. Ce soir-là, il finit de bonne heure et s'apprêtait à sommeiller sur le divan quand on frappa à la porte. Il se leva pour se rasseoir derrière son bureau. Serafino. « Entrez, dit-il d'un ton brusque d'homme d'affaires. » La poignée s'abaissa, mais la porte demeura close. Avec un sourire, il alla repousser le verrou et fit signe à la fille de prendre place sur le divan. Il referma la porte derrière elle, s'installa de nouveau, l'air important, pour vérifier pendant une minute ou deux les fins de page de ses livres et quelques factures. Puis, tournant lentement sur son fauteuil, il laissa traîner son regard sur la nouvelle employée, Serafino. « Comment vous appelez-vous, ma petite ?»«
Stella. »«
Stella, Stella Mastrangelo. » Serafino. « Comment appelez-vous ça ? Venez plutôt ici et écrivez-le sur ce bout de papier. » Elle vint à son bureau et se pencha pour écrire. Elle était jeune et fraîche, avec une peau un peu olivâtre et des yeux sombres et provocants. Il eut comme un mouvement de la main vers la croupe que le satin noir tendu rendait si alléchante, puis se retint. De la même voix indifférente et sèche, il ajouta. « Mettez votre adresse, le numéro de sécurité sociale, votre numéro de téléphone également, au cas où l'on ait besoin de vous. » Elle se redressa au bout d'un instant. Au lieu de retourner s'asseoir, elle lui fit face en s'appuyant contre le bureau. «
Stella. »«
C'est tout ce que vous désirez, monsieur ?»«
Serafino. »«
Ouais. » Il regardait ce qu'elle avait écrit. « Serafino. »« On peut avoir besoin de vous de temps à autre. » Nelly a parlé d'un soir de congé supplémentaire pour demeurer un peu avec son gosse.
Stella.
Oh, je serais si heureuse, monsieur Serafino.
Serafino.
Nous verrons cela. Dites-moi, vous êtes venu en voiture ?
Stella.
Non, en autobus.
Serafino.
Et comment allez-vous rentrer chez vous ?
Stella.
Monsieur Lenny m'a dit que je pourrais partir juste avant minuit. Ça me permettra d'attraper le dernier bus.
Serafino.
Et vous rentrerez seul si tard ? Vous n'avez pas peur? Ça ne va pas, voyons. Je vous mettrai chez vous ce soir, et vous vous arrangerez autrement la prochaine fois. Pat pourra vous trouver quelque chose de régulier avec un taxi du parking.
C'est là.
Mais je ne peux pas accepter, monsieur.
Serafino.
Mais pourquoi donc?
C'est là.
Monsieur Lenny m'a dit. Il leva la main pour l'interrompre.
Serafino.
Personne n'a besoin de le savoir, dit-il d'une voix douce et engageante. « Regardez cette porte, elle s'ouvre directement sur le parking. Vous vous en irez à minuit moins le quart, et vous m'attendrez à l'arrêt de l'autobus. Je vous y prendrai en voiture,
celle-là. »«
Mais monsieur Lenny,
Serafino,
quand Lenny trouve ma porte fermée, il sait que je pique un petit somme, et il ne lui vient pas à l'esprit de me déranger, croyez-moi. D'ailleurs, nous avons à discuter d'affaires tous les deux, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça d'un battement de sourcils prometteur.
Serafino.
« Partez vite, ma petite. À tout à l'heure. » Pour la renvoyer, il lui tapota la croupe d'un air paternel. Au bar Chips Cabine, on servait des sandwichs, des pets de nonnes et du café. avec le soir, quelques plats chauds inscrits une fois pour toutes sur une carte graisseuse. Boulettes et spaghettis, palourdes frites et pommes de terre, saucisses de Francfort et haricots. Chaque plat portait un numéro dont les clients réguliers, comme Stanley, se servaient pour passer leurs commandes, probablement dans le but d'accélérer le service. Les habitués de midi buvaient un verre de bière lourde ou légère pour faire passer le sandwich. Avant le dîner, c'était l'heure du whisky. Les vrais clients, Stanley par conséquent, revenaient vers 9 heures, lorsque la chips cabine s'animait vraiment. Après avoir quitté la maison du rabbin, Stanley au volant de son taco arriva à la chips cabine où il prit son repas chaud de la journée. Mâchant lentement chaque bouchée, les yeux fixés sur l'écran de télévision placé très haut dans un coin de la salle, avalant de temps à autre une gorgée de bière. Si ce n'est une remarque au patron sur le temps qu'il faisait, il ne parlait habituellement à personne. Après avoir vidé son second demi, s'être essuyé la bouche à la serviette de papier qu'il laissait intacte tout le long du repas, il allait à la caisse, réglait son compte et reprenait sa voiture pour faire les quelques blocs qui le séparaient de son domicile. Ce soir-là, sa logeuse, Madame Schofield, était assise dans son petit salon et il entr'ouvrit la porte pour lui souhaiter le bonsoir. Une fois dans sa chambre au premier étage, il ôta ses souliers, son pantalon et sa chemise de travail et s'allongea sur le lit, les mains croisées sous sa tête, regardant le plafond sans le voir. Pas de photo comme celle du sous-sol de la synagogue. Madame Schofield ne l'aurait pas permis. La seule décoration était un calendrier où la reproduction d'un petit garçon et de son chiot devait, dans l'esprit de l'agent de publicité, inspirer au public des sentiments amicaux pour la compagnie charbonnière de Barnard's Crossing. Il sommeillait habituellement une heure ou deux, mais ce soir, une sorte d'agitation le tourmentait. Brusquement, il ressentait sa solitude. Dans son cercle de relations, son état de célibataire était considéré comme la preuve de son intelligence. Lui, au moins, ne s'était pas laissé prendre. Mais n'avait-il pas été trop intelligent, en fin de compte? Quelle était donc sa vie? Un dîner avalé au comptoir d'un bar, perché sur un haut tabouret, puis une chambre meublée avec, pour unique espoir, une soirée au même bar? S'il était marié, sa vie serait différente. Après quelques minutes de rêve éveillé, il sombra dans le sommeil. À son réveil, il était presque 10 heures. Il enfila ses vêtements de sortie et repartit en voiture pour la chips cabine. Sa rêverie ne le lâchait pas. Il but plus que d'habitude pour tenter de la noyer, mais elle était tenace et ressurgissait à chaque accalmie des conversations ou du bruit. Vers minuit, les gens commencèrent à partir, et Stanley se leva pour s'en aller. Jamais il ne s'était senti plus seul. Il se rappela que c'était jeudi et qu'il y aurait peut-être une fille à descendre de l'autobus à Wackenwein. Peut-être serait-elle lasse et apprécierait-elle de faire en voiture la distance qui la séparait de chez elle. Elspeth s'était assise à l'arrière de la voiture. La pluie cessait, mais de grosses gouttes rebondissaient encore sur l'asphalte transformé en une sorte de lac noir. Elle était tout à fait à son aise maintenant, et, pour le prouver, tirait de longues bouffées gracieuses de sa cigarette comme une actrice. En parlant, elle regardait droit devant elle, guignant du coin de l'œil les réactions de l'homme. Il se tenait très droit, les yeux grands ouverts sans un signement, les lèvres serrées sur sa colère, sur son désespoir peut-être, sur l'anéantissement de tous ses projets. Elle se pencha en avant pour éteindre sa cigarette, ponctuant chaque mot d'un petit coup sec contre le métal du cendrier. Elle eut soudain l'impression qu'il tendait la main vers elle, et l'aperçut au dernier moment. Il effleura sa nuque, et elle allait lui sourire quand elle sentit que la lourde chaîne d'argent qui encerclait son cou se resserrait soudain. Elle voulut le prévenir qu'il lui faisait mal, mais une subite torsion transforma le collier en garrot. Il était trop tard pour crier. Un brouillard rouge passa devant ses yeux, puis tout devint noir. Le bras de l'homme demeurait toujours tendu, et sa main continuait à tordre le collier comme celui d'un chien méchant qu'on tient à distance. Lorsqu'il lâcha prise, elle bascula en avant, mais il la rejeta en arrière sur son siège. Il attendit un instant. Sans un bruit, il ouvrit la porte de la voiture, regarda longuement au dehors. Puis, Certain qu'il n'y avait personne en vue, il mit pied à terre pour tirer le cadavre à lui. Il n'eut pas un regard pour la tête qui bringue balai. D'un coup de hanche, il referma la portière. Il la souleva au-dessus du mur, à l'endroit où il était le plus bas, 1 mètre à peine. En se penchant, il voulut la déposer doucement de l'autre côté, sur l'herbe, mais elle était lourde et lui échappa. Dans l'obscurité, il voulut lui clore les yeux, comme pour les protéger de la pluie, mais elle était tombée face contre terre, et il ne toucha que ses cheveux. Ce n'était pas la peine d'essayer de la retourner.